William de Vigeler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie chez BNP Paribas Investment Partners. On va parler avec vous de stratégie sur les marchés et de perspectives. Alors, avec des espoirs en ce moment de résolution de la crise européenne, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important aujourd'hui sur ce qui se passe sur les marchés après la peur du mois d'août, peur du mois de septembre? On est dans quel schéma d'investissement?
Les marchés donnent l'impression qu'ils ont dépassé le pic de l'intensité des angoisses. On l'a bien vu, chaque fois qu'au niveau de la zone euro, il y avait une rumeur d'une bonne nouvelle, ça faisait flamber la cour et c'est encore le cas tout dernièrement. En même temps, au niveau de l'économie US, là encore, on a eu quelques chiffres récemment qui étaient plutôt soulageants. Donc, les deux grandes angoisses qu'on avait vécues pendant les mois d'été semblent être passées, du moins temporairement, à l'arrière-plan.
On entend souvent les investisseurs dire il faut que les politiques, notamment dans la zone euro, trouvent et mettent en place la solution, la bonne solution pour que peut-être ça aille mieux du côté des marchés financiers. On sait que le temps politique, ce n'est pas le temps des financiers. On est toujours sur le règlement, la solution du défaut grec annoncé ou par les marchés.
Oui, il y a une grande impatience de la part des investisseurs, ce qui est compréhensible, c'est humain, et en même temps, comme vous le dites, dans un schéma européen, ça prend beaucoup de temps. Ça prend également beaucoup de temps parce que tout le monde n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, comme on le sait, même si les initiatives, notamment entre la France et l'Allemagne, de se rencontrer très souvent et en fait d'être un peu presque la porte-parole, ces initiatives doivent être saluées, bien évidemment. Je pense que le problème qu'on a peut être résumé comme il nous manque un acheteur en dernier ressort. Bon, la Banque centrale européenne l'a fait, continue à le faire, mais c'est clair que c'est pas assez et donc on a besoin de plus. Donc c'est tout le débat sur le EFSF. Deuxièmement, il y a une problématique au niveau du secteur bancaire qui a été, je dirais, atteint pour la toute simple raison que le problème fondamental n'était pas vraiment résolu. Sur cela se greffe donc l'incertitude au niveau de la Grèce, avec donc maintenant des rumeurs comme quoi les 21% de la participation du secteur privé serait donc relevé à un chiffre plus important. Ce qui nous rappelle qu'il est d'autant plus pressant de trouver les solutions fondamentales sur les deux problèmes que j'ai cités.
Alors on citait le chiffre hein, de 60%, notamment par Jean-Claude Juncker qui avait cité ce chiffre-là. Donc on voit d'où on vient et vers quoi quelque part on arrive sur les marchés. Et c'est ça qui fait encore peur, c'est-à-dire qu'on manque de clarification sur l'impact finalement sur les différents acteurs du secteur financier et savoir comment ils vont pouvoir passer ce cap-là.
C'est ça, et on peut dire que les progrès qui ont été réalisés et qui, lorsqu'on remonte au mois de mai 2010, ont quand même été considérables. En dépit de ça, on reste un peu sur sa faim. Pourquoi? Parce que le cœur du sujet n'a toujours pas été abordé ou il n'y a pas eu de solution jusqu'ici. Et donc, je pense que les marchés, de plus en plus, sont devenus sensibles à cette approche qui est trop gradualiste, trop lente aussi, avec donc toutes les implications qu'on a vues en termes de comportement des cours boursiers, et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi cet degré d'impatience a si fortement augmenté. Et donc, il faut espérer, bien évidemment, comme maintenant les attentes ont été créées, qu'on viendra avec la grande déclaration, la grande solution vers le 23 octobre et puis le sommet du G20 début novembre, qu'à ce moment-là, effectivement, on viendra avec quelque chose qui va surprendre très favorablement le marché, parce qu'autrement, ce serait encore la énième douche froide.
Alors, on pourrait dire qu'effectivement, on est concentré là sur les questions concernant la zone euro. Pourtant, si on regarde du côté des États-Unis, on sait qu'on attend un nouveau plan du président Obama et que ce plan a aussi toutes les chances de ne pas être voté et qu'il peut y avoir aussi de nouvelles incertitudes politiques aux États-Unis comme on avait eu au cours de l'été.
Oui, c'est ça, et encore les coupes de dépenses automatiques qui tomberaient, etc. Je pense que ça, c'est le sujet de préoccupation pour les marchés suivants. C'est-à-dire qu'on a une année électorale qui s'approche, donc ça va être une année de perdu en termes de mesures de politique budgétaire, d'assainissement budgétaire, même si le Fonds monétaire a quand même rappelé que les Américains ne doivent pas y aller trop fortement, d'une manière trop agressive, parce qu'autrement, ils se tireraient dans les pieds. Il n'empêche que tous les débats politiques de quelle va être la politique budgétaire au-delà des élections, c'est quelque chose qui va monopoliser l'attention avec toutes les angoisses que ça peut susciter. C'est vrai, c'est un vrai topo, ça. Oui.
Alors, en termes d'investissement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'investisseurs ne pas être sur ces marchés, être par contre sur l'or, sur le franc suisse. On a connu une belle période sur le franc suisse, sur le Bund allemand. Cette typologie, hein, d'investisseurs qui ont peur, clairement, en attendant d'y voir un peu plus clair sur les marchés. Comment on investit sur ces marchés en ce moment?
C'est vrai que on a vu cette fuite vers les valeurs refuges, mais il faut bien le rappeler, n'offre pas une certitude quant au rendement qu'on réalisera. On l'a bien vu avec l'or, on l'a vu avec l'intervention sur le franc suisse, et ainsi de suite. Rappelons quand même que celui qui achète une obligation allemande l'achète à un rendement nominal qui est inférieur à l'inflation. Donc, ça laisse quand même un peu songeur. Je pense que la toute première question que tout investisseur doit se poser, c'est comme investir pour des nuls, si je puis dire, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai investi? Quel est mon objectif? Quel est mon horizon? Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas se tromper du concept de risque qu'on a. Pour un investisseur qui a un horizon d'investissement qui est relativement court, un investisseur dynamique, bon, il y a clairement des opportunités qui, dès à présent, sont bien là. On peut dire que à l'approche des sommets européens, G20, etc., et dans un scénario où effectivement ils viendront avec quelque chose, il y a une capacité de rebond des bourses européennes qui est très considérable et d'un rebond supplémentaire de l'euro par rapport au dollar qui est considérable aussi. Après, une fois qu'on a vu cette correction vers la hausse, ça va à nouveau être une période d'attendre pour voir plus clair au niveau, bon, comment on va implémenter des décisions et qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle conjoncturel, ne l'oublions pas. C'est un élément qui est important parce que donc il y a une fenêtre d'opportunité qui maintenant paraît être ouverte, mais qui va se refermer assez rapidement. En revanche, pour un investisseur qui a un horizon plutôt de moyen terme, je dirais d'ici la fin de l'année, je pense qu'il faut absolument commencer à s'intéresser au marché émergent. Certes, la sensibilité à l'appétit pour le risque ou la disparition de l'appétit pour le risque a été grande, mais c'est ça qui crée l'opportunité en termes de rapport court-bénéfice. Ces marchés-là traitent 20% en dessous du PER qu'on trouve sur le marché développé, en dépit d'une croissance qui est structurellement plus élevée, de rentabilité sur fonds propres plus intéressant, etc., etc. Et troisième opportunité que je voudrais mentionner, c'est la dette émergente en devise locale ou voire même en devise externe, donc en dollars par exemple ou éventuellement convertie en euros. Pourquoi? Parce que les écarts de taux par rapport soit le trésor américain ou encore le Bund allemand se sont bien élargis et les devises ont également fléchi. Donc clairement, c'est une très belle opportunité qui se présente pour le prochain trimestre.
Le mot de conclusion peut-être, est-ce qu'il y a des actifs que vous évitez compte tenu de ce qu'on a évoqué ensemble? Est-ce qu'il y a des actifs qui sont sur lesquels vous ne pouvez pas aller aujourd'hui?
J'aime pas l'or. J'aime pas l'or, c'est-à-dire que c'est un instrument qui est tellement risqué et bon, après la correction, maintenant est sur une position de. On ne sait pas très bien si les anciennes corrélations seront maintenues ou si ça va fondamentalement changer. Donc, c'est un instrument qui est devenu quand même super risqué. Donc, ça, clairement, non, ça ne m'intéresse pas.
Merci d'avoir fait le point avec nous, William de Vigelaire. On rappelle que vous êtes donc le
Plaisir.
directeur de la stratégie de BNP Paribas Investment Partner.
Plaisir.